Aujourd'hui à l'émission, le lunch n'est jamais gratuit, la chronique d'économie politique d'Olivier Jacques. Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, on reçoit Olivier Jacques pour sa chronique d'économie politique. Le lunch n'est jamais gratuit. Bonjour Olivier.
Bonjour Julien.
Donc avec toi, on va revenir cette semaine sur le sujet des baisses d'impôts, un sujet assez important quand on voit la CAQ avec Éric Girard en début de semaine à la suite des surplus qui ont été annoncés par le gouvernement, mais aussi dans le cadre des programmes pour le PCQ, le Parti conservateur du Québec, et le PLQ, le Parti libéral. Ces trois partis mettent l'accent sur les baisses d'impôts et possiblement, vu la vague, on n'hésitera pas à dire que peut-être QS, voire même le PQ vont aussi proposer ça quand on sait à quel point que les électeurs sont réceptifs à cette argument en période de campagne électorale. Ma première question, et surtout étant donné que la CAQ est encore au gouvernement et que les élections n'ont pas encore été déclenchées, c'est qu'on a pu voir Éric Girard ce début de semaine dire que le gouvernement avait une marge de manœuvre nécessaire pour diminuer les impôts. Et donc la première question, c'est pourquoi?
C'est vrai que l'inflation, ça a un impact vraiment important sur les revenus de l'État. Donc ça augmente les revenus de l'État considérablement. Et ce qu'on a observé, c'est que on prévoyait un déficit de presque 6,5 milliards. Et finalement, le déficit en ce moment n'est que de 700 millions. Donc, c'est immense. Donc, ça, c'est grâce à l'inflation. Le gouvernement devient plus riche grâce à l'inflation. Les citoyens deviennent moins riches, par contre. Cela dit, c'est que c'est pas nécessairement parce que en ce moment, les revenus des trois croissent, de l'État croissent, que l'inflation va toujours continuer. Donc, si on fait une baisse d'impôts en ce moment, on va se priver de revenus dans le futur, alors que l'inflation, un jour, va arrêter. Là, probablement que dans deux ans, on va être de retour à 2-3%.
Et alors que le risque de récession reste important. Donc, on voit Éric Girard qui annonce 50% de risque de récession. Et souvent, une récession, c'est une baisse de revenus pour le gouvernement.
C'est ça. Et Girard dit, pas de récession en vue, mais il y a des risques. Il sait quand même. Donc, moi, je pense qu'un ralentissement économique va survenir. À quel point il va y avoir une grosse récession, on verra. Mais donc, probablement que les projections de croissance du ministère des Finances sont un peu optimistes. Et que, donc, le déficit va augmenter. Quand il y a des récessions, le déficit augmente, le gouvernement doit dépenser plus. Donc, si on baisse les impôts maintenant, parce que la situation fiscale est bonne cette année, elle risque de ne pas être très bonne l'année prochaine. Donc, c'est risqué.
Avant de passer à la prochaine question, petit aparté, mais quand on voit aussi les chiffres annoncés aux États-Unis, on sait souvent la dynamique économique ici suit un peu en partie, c'est les États-Unis, et que selon la Fed, la récession s'éloigne de plus en plus, et l'inflation est en train d'être jugulée, donc contrôlée, on devrait réatteindre des niveaux normaux de 2-3% plus rapidement que prévu. Est-ce que si ça se passe bien de ce côté-là, tu penses que ça va bien se passer de ce côté chez nous, et que le 50% de probabilité de récession va encore plus diminuer?
Écoute, on verra, mais cet hiver en Europe, ça va être difficile avec le gaz. La Chine est quand même une incertitude. Il y a la COVID. Donc,
leur politique de zéro COVID.
Exact. Est-ce qu'il va y avoir un retour de la COVID? Il y a beaucoup d'incertitudes.
Donc, la prochaine question, donc, si on lit entre les lignes, tu penses qu'on ne peut pas se permettre de baisse d'impôts? C'est vraiment ça?
Non, exactement. Je pense que non seulement il y a la question de la récession qui vient, mais aussi, je pense qu'il y a deux bonnes raisons qui fait qu'on peut pas se permettre de baisse d'impôts. D'abord, je crois que ce que la pandémie a révélé, c'est que malgré les impôts qu'on paie, nos services publics méritent des investissements supplémentaires. Et les gens en ont besoin et le demandent. Donc, on a une demande et un besoin de services publics d'un côté. Et de l'autre côté, c'est plus à moyen terme, mais c'est que le Québec est dans une situation de vieillissement de la population qui est très importante.
C'est ça.
Et ça implique moins de croissance économique, donc potentiellement moins notre croissance, moins notre revenu pour l'État.
C'est ça.
Aussi une hausse des coûts de la santé qui est considérable à moyen terme. De sorte que moi, je pense qu'un gouvernement prudent devrait se garder toute la marge de manœuvre fiscale nécessaire en vue de faire face à la
cette hausse
des
de coûts
de la santé qui va survenir. Là. Ça, c'est une certitude. C'est comme le réchauffement climatique. C'est
sûr
que ça va arriver.
Et sur une question hausse des coûts de la santé, aussi investissement à court terme et même à extrême court terme. On va prendre l'exemple de cet été comme cet hiver. Il faut un rattrapage et un rapatriage au maximum de main-d'œuvre et de moyens dans le secteur de la santé dès cet hiver. On peut le voir cet été que les services sont assez surbookés malgré les investissements qui sont faits pour ramener les gens. Donc, on fait une situation comme on la connaît cet été, avec les surplus et de situations problématiques qui sont arrivées les deux derniers hivers avec la conjugaison de différentes épidémies ensemble, c'est il faut se garder le maximum de moyens financiers, de marge de manœuvre financière pour pouvoir encore plus contenir les différentes difficultés qui vont arriver à court terme.
Tout à fait, exactement.
Et donc au niveau aussi moins de croissance, quand tu parlais de vieillissement de la population, moins de croissance, la petite question c'est, là on voit aussi par exemple avec beaucoup de personnes qui vont quitter le marché du travail, donc les problèmes de pénurie de travailleurs, ça va en fait aller s'accroître, et au bout d'un moment c'est pas grave d'avoir le plein emploi, s'il y a personne pour compléter les emplois disponibles ou à remplacer, ça ralentit l'économie et ça provoque du risque.
Exactement. Donc, je pense que la situation fiscale va bien en ce moment, mais à moyen terme, elle n'ira pas bien. Et c'est certain. Donc, il faut se garder. Moi, je vois pas de solution viable où il y a des baisses de revenus de l'État.
Ça va être prudent.
Faites volontairement par l'État.
Donc, la CAQ justifie sa baisse d'impôts en disant que le Québec est la juridiction la plus taxée en Amérique du Nord. C'est souvent l'argument qui est le plus utilisé dans toute campagne électorale depuis plus de 20 ans. En plus, on va se le dire. Le PCQ en rajoute en plus sur cette question. Maintenant, avec leur grande présence médiatique. Donc, cette baisse d'impôts ne serait-elle pas quand même désirable pour rendre le Québec plus compétitif? Parce que souvent, on va dire que, par exemple, pour les entreprises et autres choses, il y a trop d'impôts. Donc, ça empêche les investissements, ça empêche la latitude nécessaire pour voir au long cours comme au long terme de manière économique. Donc, on est trop bloqué. Libérez-nous, s'il vous plaît.
Faut reconnaître, effectivement, que pendant le mandat de la CAQ, les impôts n'ont pas diminué. Pour un parti qui se définit comme relativement de centre-droit, ils n'ont pas baissé les impôts. La CAQ, ils ont baissé la taxe scolaire, mais en même temps, il y a d'autres impôts qui ont augmenté. Donc, il n'y a pas eu de baisse du fardeau fiscal. Et il y a beaucoup de députés plus à droite qui sont vraiment pas contents du fait que les impôts n'ont pas été baissés. Mais en même temps, c'est parce que la CAQ a répondu à la demande publique qui était de dépenser plus. Je pense qu'il y a ça à considérer. Ensuite, c'est vrai que le fardeau fiscal est très élevé au Québec par rapport au Canada ou aux États-Unis. Mais le Canada et les États-Unis, c'est des juridictions où les taxes sont très basses par rapport à l'Europe. On est plus comme un pays européen normal, d'un niveau similaire à l'Allemagne.
Avec un État providentiel assez fort, donc besoin de revenus.
Et cela dit, c'est vrai que l'impôt sur le revenu, particulièrement au Québec, est très élevé. On utilise moins la taxe à la consommation que d'autres pays européens et beaucoup plus l'impôt sur le revenu. Mais ensuite, moi, je suis pas convaincu de l'argument que le fardeau fiscal a un effet extrêmement négatif sur l'économie. Ça dépend quel impôt. Par exemple, dans le cas français, il y a beaucoup d'impôts sur la masse salariale.
Oui, totalement.
C'est-à-dire que embaucher un autre, chaque travailleur additionnel coûte très cher à l'entreprise.
Ouais.
En plus du salaire, il y a beaucoup de charges sociales à l'entreprise. Ça, c'est vrai que ça nuit à la création d'emplois. Ensuite.
Et ça dépend, il y a beaucoup pour avoir connu un peu des anciens patrons dans les petits boulots que je faisais qui expliquaient, qui se plaignaient un peu. Ils essayent un peu de compenser ça avec différents incitatifs, différents actifs, donc ça dépend de quel type d'entreprise, mais ça ne suffit pas parce qu'il y en a tellement, c'est n'importe quoi.
Exact. Et ensuite, l'impôt corporatif, des fois, peut avoir un impact négatif sur les investissements, mais même à ça, ce que les entreprises préfèrent, c'est des bonnes infrastructures, de la main-d'œuvre qualifiée, puis de la main-d'œuvre présente. Une entreprise, tu lui demandes, est-ce que tu veux payer plus d'impôts, mais il n'y aurait pas de pénurie de main-d'œuvre? La réponse est très claire pour cette entreprise-là. Et ensuite, par rapport aux individus, l'impôt sur le revenu, est-ce que ça diminue vraiment les heures travaillées? Il n'y a pas beaucoup de preuves que c'est le cas. Donc, c'est pas clair que la baisse d'impôts a un effet positif sur la croissance économique. Ça dépend de qu'est-ce que les gens font avec cette baisse d'impôts-là. Et aussi, il faut la mettre en relation avec si la baisse d'impôts implique moins de dépenses publiques, la dépense publique aussi peut avoir un multiplicateur positif. Ça dépend. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que la dépense publique stimule l'économie aussi? Oui. Ensuite, ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec la baisse d'impôts et qu'est-ce qu'on fait avec la dépense publique qu'on ne fait pas à la place.
L'importance c'est vraiment trouver le juste milieu entre baisse d'impôts et continuation de la bonne dépense publique, le ciblage et tout ça.
Exact. Moi, je pense que l'argument de croissance économique, bof, c'est juste que la question, c'est est-ce qu'on veut soutenir plus d'impôts? Ça donne plus de services publics. Les Québécois reçoivent plus de services publics que les autres Nord-Américains. On a les meilleures politiques familiales en Amérique du Nord et parmi les meilleures au monde. Le soutien du revenu des plus pauvres est beaucoup plus généreux. On a l'éducation la moins chère et de qualité. Et on est la seule juridiction avec une assurance médicaments.
Ça,
c'est juste quelques exemples de ce qu'on reçoit que les autres ne reçoivent pas. Il y a les services de garde de Sarah dans la politique familiale. Donc, la question, c'est est-ce qu'on veut avoir plus de services et plus d'impôts ou moins d'impôts et moins de services? C'est une question question gauche-droite de base. C'est pas est-ce que réduire les impôts va augmenter la croissance économique. Moi, j'y crois pas vraiment.
Ah, c'est un bon petit. Ça me rappelle la lecture de Keynes et la lecture de l'État, le soutien à l'État-providence. Mais c'est toujours la question qui reste, en fait, quand tu analyses un peu. C'est la question principale, le soutien. Est-ce qu'on veut un État plus présent ou est-ce qu'on veut un État moins présent, surtout dans le cadre de crise comme on peut la connaître en ce moment, où ça offre plus de certitude pour la population et plus de certitude après pour la croissance économique, pour l'investissement. On sent qu'on a une grande pyramide qui nous entoure et qui nous encercle, qui est plus sécuritaire. Ce qui pose une autre question, c'est s'il reste que l'impôt enlève de l'argent des poches des citoyens, alors que les gens ne reçoivent pas nécessairement des services publics. Quelle est la question? Donc, quel est cet équilibre à trouver comme il faut, surtout quand on parle de questions de baisse d'impôts?
Ben, c'est ça, c'est d'un point de vue individuel, je pense que c'est assez intéressant de concevoir l'impôt comme une forme d'arbitrage entre consommation personnelle et services publics. Parce que finalement, là, dans une société moins imposée, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens ont plus d'argent pour acheter plus de choses, ont plus de choix. Ils doivent payer plus de services publics eux-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, tu vas aller chercher une assurance privée sur certains trucs que l'État ne couvre pas, ou tu peux décider de ne pas avoir cette assurance-là, tu peux acheter plus de choses. En fait, c'est un peu ça. C'est que tu te dis, bon, ben moi, dans une société moins imposée, tu peux avoir plus de voitures, puis plus de télé, puis une plus grosse maison. Ouais. Dans une société plus imposée, l'État décide collectivement de ce qu'on fait avec l'argent, puis ça implique plus de services. Donc, tu vas recevoir plus de services publics, il va y avoir une redistribution qui va se produire. Ensuite, on peut dire, moi, personnellement, je crois que la redistribution, ça crée du bonheur marginal, dans un sens où les plus pauvres, quand ils se font donner de l'argent, leur bonheur marginal est plus élevé avec le 10 000 $ mettons, qu'ils reçoivent, que la perte de bonheur de la personne qui paye 10 000 $ d'impôts. Mais bon, foncièrement, là, c'est une question d'individualisme versus de collectivité.
C'est ça
l'impôt. Là.
C'est ce qu'on veut, une cultivation de l'égoïsme, l'égoïsme naturel de l'être humain, lui permettre de choisir qu'est-ce qu'il veut pour son confort personnel, ou est-ce qu'on veut que, certes, on garde un peu un confort personnel, mais on permet aussi, en n'utilisant pas un argent qui aurait pu permettre d'accroître ce confort personnel, de participer au confort collectif.
Et
c'est sur une question.
C'est là que je pense que je suis biaisé, là, parce que moi, je trouve pas que les gens ont pas assez d'argent pour acheter des choses. Là.
J'entends Éric Duhem dire par derrière, crier au communisme lorsqu'on tout se comprend. Donc, c'est la dernière question. Sur une autre question, c'est on a des aspects plus politiques. Donc, ces questions de baisse d'impôts, à chaque fois, ça va émouvoir au maximum l'électeur. Ça va probablement l'inciter à voter même parfois contre son intérêt. On dit, je vais voter, je vais baisser tes impôts. L'électeur va être en mode, ah, je ne comptais pas voter pour toi, mais je vais voter pour toi maintenant parce que tu proposes ça. C'est quand même quelque chose de très politique. Et à partir de là, à qui profitent les baisses d'impôts?
Ben, les baisses d'impôts profitent à ceux qui en payent, d'abord et avant tout. Et c'est là que c'est impossible de cibler une baisse d'impôts, ou presque. Les seules baisses d'impôts ciblées qu'on peut faire, c'est des crédits d'impôts particuliers pour certains groupes. Ça, les conservateurs de Stephen Harper étaient très, très bons pour faire ça. Ils faisaient, par exemple, des crédits d'impôts pour les parents qui envoient leurs enfants jouer au hockey. Ouais. C'est assez spécifique. Ça servait à aller chercher des clientèles électorales. Mais ensuite, ça n'existe pas une baisse d'impôts pour les pauvres. Parce que une baisse d'impôts pour les pauvres, là, ça veut dire qu'on augmente le montant personnel de base. Ça veut dire que c'est le montant sur lequel on n'est pas imposé. Mais ça, c'est pas juste pour les pauvres, là. Quand le montant personnel de base est augmenté, c'est tout le monde qui paye des impôts qui paye moins d'impôts. Si on baisse les taux au bas de l'échelle, ben moi, mon dollar marginal gagné là, en haut de mon salaire, ben il est aussi influencé. Mon imposition est aussi influencée par le taux au bas de l'échelle. Donc, et les riches vont gagner davantage quand on fait une baisse d'impôts parce qu'ils en payent plus d'impôts. Donc, il n'y a pas de baisse d'impôts qui est pour les pauvres. Et en fait, moi, je dirais que même une baisse de la taxe
la TVQ,
de vente est régressive.
Ah oui?
Parce que, je pense que oui, parce que oui, la taxe de vente est régressive ou proportionnelle en ce sens où les plus pauvres consomment une plus grande proportion de leurs revenus, mais la taxe de vente rapporte, chaque point de taxe de vente rapporte 1,5-2 milliards de dollars à l'État.
Ah oui,
et la dépense publique est progressive. Donc, si on diminue la taxe de vente pour...
On ne compense pas les dépenses
publiques. Si on fait moins de dépenses publiques, ça veut dire que les pauvres reçoivent moins.
Donc, la conclusion...
C'est sûr que si on baisse la TVA pour arrêter d'acheter des... Si on augmente la TVA pour acheter des avions de chasse, oui, OK, c'est régressif. Mais si on augmente la TVA pour donner des services publics, les pauvres en bénéficient davantage.
Et donc, le point principal, c'est vu ce que tu expliques, c'est que, façon de parler, quand on dit baisse d'impôts et à quel point ça peut nuire, une baisse d'impôts nuire à la compensation face à l'augmentation de la dépense publique, et comme tu dis, une baisse d'impôts, même une baisse d'impôts pour les plus pauvres en augmentant par exemple le taux marginal, ça sert plus les plus riches que les plus pauvres du fait que les plus pauvres payent beaucoup moins d'impôts et autres, et on en a déjà parlé la semaine dernière, ça joue un peu sur la réduction des inégalités. Et donc une baisse d'impôts, ça fait plaisir, mais sur l'aspect général de réduire les inégalités tel qu'un État-providence est censé le faire, ça joue pas sur ça.
Toute baisse d'impôts est régressive d'une certaine manière. Ouais. Toute baisse d'impôts nuit aux pauvres et augmente les inégalités. Ah oui. Toutes choses étant égales par ailleurs, là, dans le sens où, en considérant la dépense publique qui est diminuée, si on fait juste baisser les impôts et on met ça sur le déficit, c'est différent. Mm. Mais ensuite, le déficit, c'est une hausse d'impôts future. Là. Donc, il n'y a pas vraiment de solution.
C'est quand même intéressant.
La baisse d'impôts implique une baisse de dépenses publiques. Ouais. Et considérant la structure des dépenses publiques québécoises, là, c'est pas mal toutes des dépenses redistributives, c'est la baisse d'impôts, elle nuit aux inégalités.
Donc, pourquoi la CAQ propose cette baisse d'impôts? Pourquoi elle a passé 2 ou 3 jours à être assez présent, à faire un blitz médiatique à propos de ça?
Bon, il y a 3 raisons. On en a parlé, c'est électoraliste. Les partis qui ont un électorat plus à droite gagnent des votes lorsqu'ils font des baisses d'impôts. Ça a été quand même démontré. Les partis de gauche ne gagnent pas de votes en proposant des baisses d'impôts. Message pour Québec solidaire, là. Baisse d'impôts, là, ça augmente les inégalités et ça ne vous donnera pas de vote. Ne proposez pas de baisse d'impôts, Québec solidaire. Redonner de l'argent en contexte d'inflation, ça c'est la 2e raison de pourquoi est-ce qu'on veut baisser les impôts. C'est clair que le gouvernement s'est enrichi puis les gens se sont appauvris. Mais moi, je l'ai dit la semaine dernière, je préfère les chèques tant qu'à y être. Les chèques, au moins, on peut soit cibler. Au moins, on va donner de l'argent à tout le monde.
Totalement.
Alors que les baisses d'impôts, c'est seulement pour les gens qui payent des impôts. Et ça, c'est à peine plus qu'à la moitié de la population.
C'est ça, on avait parlé
alors, si on fait un chèque à tout le monde, et qu'on le donne pas aux gens qui sont plus riches, c'est mieux.
Un meilleur ciblage vraiment pour utiliser, remettre l'argent dans des poches dans ceux qui ont besoin afin de participer à la réduction des inégalités.
Oui, et bon, en plus, l'inflation, c'est un problème temporaire. Et finalement, je pense que l'idée de la baisse d'impôts, je pense pas que la CAQ est vraiment dans cette réflexion un peu plus machiavélienne, mais l'idée de la baisse d'impôts, c'est d'affamer la bête. C'est qu'on veut affamer l'État. C'est ça que Milton Friedman disait, la droite veut affamer l'État. Starving the beast. En réduisant les impôts maintenant, le gouvernement diminue la marge de manœuvre fiscale des gouvernements futurs. Donc, ça limite les augmentations potentielles de dépenses publiques si un gouvernement de plus à gauche prend le pouvoir. Parce que c'est difficile politiquement
de
pour un gouvernement
les impôts.
D'augmenter ses impôts, ses revenus. Donc, l'idée, c'est d'affamer la bête tranquillement, pas vite. C'est ce qu'Harper a fait. Harper a quand même bien affamé la bête. Puis là, les libéraux, leur solution, ça a été de faire des dépenses publiques.
Au lieu de réaugmenter les impôts sur certaines classes, parce que ça les aurait desservis dans le cadre d'élections et autres, surtout dans les endroits où ils avaient fait des succès dans le changement de majorité entre Harper et Trudeau, sur un aspect baisse d'impôts aussi, baisse et hausse d'impôts, quand tu vois par exemple le plan Biden qui a été adopté cette semaine, la principale chose que les républicains mettaient en avant, parce que 75% de l'électorat américain était pour ce plan, c'est plus de contrôleurs fiscaux, une hausse d'impôts pour vous, ceux qui travaillent et qui travaillent et qui cravachaient comme il faut et autres. Bon, en fait, en gros, c'était pour les plus riches. Mais en utilisant des termes assez généraux, on voulait faire peur et créer un peu un dégoût pour ce projet parce que c'est la chose la plus électoraliste qui serve. Et ça, le petit point assez intéressant, c'est quand tu parlais de Milton Friedman, je voulais te faire une petite blague à propos de l'Institut économique de Montréal. Tu les as probablement excités en prononçant le nom de Milton Friedman. L'autre question, c'est quand on parle de baisse d'impôts, certes, on va faire des baisses d'impôts, mais il faut savoir payer pour ces baisses. Comment on paye pour les baisses d'impôts?
Oui, parce que c'est ça. Là, ensuite, il faut se calmer. Là. Ça se peut que la CAQ fasse une baisse d'impôts similaire à ce qu'elle a fait la dernière fois. C'est-à-dire, la baisse de la taxe scolaire, là, on s'en est même pas rendu compte. Là. Dans le sens, les contribuables s'en rendent compte, mais dans le budget de l'État, c'était pas grand-chose.
Totalement.
Les impôts, bon, ils ont augmenté d'autres impôts à la place. Si c'est une baisse d'impôts de cette magnitude-là, bof, on va la payer à la marge, ça sera pas vraiment un problème. Ensuite, si c'est une baisse d'impôts plus conséquente, il y en a qui disent on pourrait baisser les versements au fonds des générations. Parce qu'on sait qu'on verse en ce moment 3 milliards au fonds des générations, ça va bientôt passer à 5 par année. Moi, je pense que ça serait la pire chose à faire, sens où la baisse d'impôts, c'est un gain à court terme. On stimule l'économie à court terme, les gens sont contents, that's it, ça n'a aucun impact positif sur le Québec à long terme. Alors que le Fonds des générations, justement, sert à nous mettre de l'argent de côté pour prévoir l'impact de la hausse des coûts de la santé. Et la baisse d'impôts, justement, va nuire à notre capacité à faire face à la hausse des coûts de la santé. Donc, si on la finance en plus en baissant les versements au fonds de génération, franchement, ça serait une politique publique extrêmement à court terme.
C'est quand même assez problématique.
C'est très problématique. Sinon, il va falloir simplement reporter l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Donc, ça veut dire augmenter les impôts dans le futur ou faire des coupes. Mais moi, franchement, je vois pas où couper là, dans le budget du Québec. Là. Je ne vois pas d'endroit où il y a une dépense publique trop élevée qui sert à rien.
Et surtout au niveau de l'austérité, en parlant de couper, on peut le voir après, les réflexes souvent au niveau de l'austérité, c'est de faire dans les secteurs qui sont les pires secteurs à faire de l'austérité. On a pu le voir dans les 20 dernières années. Les deux secteurs les plus touchés par les politiques d'austérité, c'était la santé avec la fermeture de lits et les manques d'investissement dans le milieu de l'éducation et dans les logements sociaux et autres éléments. Des secteurs où il vaut mieux plus investir que couper quand on sait à quel point la population en a besoin et qui sont importants pour la vitalité de la province.
Exact.
Donc éviter ces mauvais choix, et donc ça met en question par rapport à tout ce qu'on a pu dire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à comprendre un peu sur cette question des baisses d'impôts?
Moi, je voudrais une dernière chose avant de conclure, c'est que réfléchissons à la Fédération canadienne un peu. Là, les provinces, le gouvernement Legault là, en premier, dit au fédéral, donnez-nous plus de transferts pour payer pour le système de santé. Moi, je m'excuse là, mais je suis le gouvernement fédéral, je regarde les provinces qui proposent des baisses d'impôts, puis ensuite, ils me demandent de l'argent à moi. Moi, j'ai pas le goût de leur donner de l'argent. Puis c'est ce que Harper, c'est ça qui fait que Harper est fâché contre Charest. C'est exactement ça qui s'est passé. Charest se plaignait du déséquilibre fiscal. Harper baisse les impôts pour régler le déséquilibre fiscal en disant, vous remontez les impôts, puis d'ici, prenez l'argent. Et Charest a juste baissé les impôts lui-même. Là, Legault va dire, on veut plus d'argent, on a de la difficulté à payer nos services publics, donnez-nous des transferts. Puis de l'autre côté, il baisse les impôts. Moi, je trouve que c'est absolument incohérent. Et à mon avis, si on se dit qu'on est nationaliste, la CAQ est nationaliste, on peut pas faire ça. Un nationaliste doit se dire il faut qu'on garde un État du Québec fort, qui garde sa position de négociation face au fédéral. Et surtout
par rapport
sur les transferts fédéraux, là.
Sur un aspect politique, sur un aspect identitaire et nationaliste, une des identités du Québec, au-delà de la langue, au-delà de la culture et autre chose, c'est un État-providence assez fort par rapport à des États plus anglo-saxons, protestants, économiques, assez libertaires, plus moins d'impôts, plus de libertés individuelles et autre chose, tel qu'on peut le voir ailleurs et tout. Et on a besoin d'impôts assez forts pour pouvoir soutenir notre dépense publique beaucoup plus forte. Donc, baisser les impôts alors que de l'autre côté, on va demander de l'argent à l'État fédéral, c'est assez antinomique par rapport à la nature de qu'est-ce qui fait le Québec.
Tout à fait.
Et sur la question quand même assez intéressante, qui, pour terminer assez rapidement, ce qu'on peut se dire, c'est au-delà de baisser les impôts, pourquoi on n'augmenterait pas les impôts des plus riches?
Pour baisser les impôts de la classe moyenne,
c'est ça,
ce que certains diraient. Mais c'est ça, la triste réalité, c'est que oui, on peut augmenter l'impôt des plus riches et des entreprises. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Mais il y a pas beaucoup de riches. Les entreprises, ça a jamais généré beaucoup d'argent, l'impôt des entreprises. Ce qui génère de l'argent, c'est taxer les gens qui travaillent pour les entreprises qui génèrent beaucoup d'argent. L'idée, c'est que si on baisse l'impôt de la classe moyenne, ça coûte vraiment cher, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la classe moyenne. On peut pas, par exemple, baisser l'impôt de la classe moyenne de manière conséquente et faire payer les riches.
C'est ça.
Les riches sont pas assez nombreux, la classe moyenne est trop nombreuse. C'est une simple question d'arithmétique.
Donc, simple question d'arithmétique. Et en plus, si tu dis que ce qui crée le plus de revenus pour l'État, c'est de taxer les personnes qui travaillent pour les entreprises. Donc, à partir de là, si on taxe encore plus, on va aussi rendre plus difficile l'embauche et plus difficile la croissance pour les entreprises d'ici.
Potentiellement.
Donc, ça pose plein de questions intéressantes, questions assez politiques. Et n'oubliez pas, si vous êtes des politiques, écoutez l'émission, les conseils que vous a donné Olivier Jacques dans le cadre de sa chronique « Le lunch n'est pas jamais gratuit » d'aujourd'hui à propos des baisses d'impôts. Merci beaucoup, Olivier. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci, Julien. À la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine. C'était Julien Corona au micro, avec Olivier Jacques de l'École de santé publique de Montréal, comme d'habitude tous les vendredis pour sa chronique « Le lunch n'est jamais gratuit ». Je vous incite à aller voir tous les travaux d'Olivier sur ces questions d'économie politique, de stratégie et autres. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez les retrouver sur Internet à partir du site de l'École de santé publique sur son onglet, l'onglet professeur, et vous pourrez retrouver Olivier avec son profil et les différents travaux et écrits qu'il a pu faire. Stratégie politique, économie politique, c'est vraiment intéressant et c'est un plaisir de pouvoir le recevoir et lui permettre d'exprimer un peu sa pensée et ses idées sur ces nombreux sujets qui font l'actualité politique à l'approche de la campagne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de questions d'actualité format estival. Julien Corne en micro et Valérian Fournier à la réalisation. Valérian qui part en vacances pendant 3 semaines, qui rentre au pays, on parle bien sûr de la France. Donc il vous reviendra dans 3 semaines avec un accent encore plus marqué quand il fera la météo. Donc ça veut dire que vous pourrez bien appeler au téléphone et dire « Ah monsieur, il a un accent du sud quand il dit la météo de Sherbrooke !» Mais c'est ça qui fait le plaisir, qui offre un peu plus de soleil dans la grisaille parfois qu'on a des derniers jours québécoises. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de questions d'actualité format estival.